Chapitre 48. Près d'Avendessora. Encore un pas, et Avienda émergea de la forêt de colonnes de verre. Prenant une grande inspiration, elle regarda derrière elle pour contempler le chemin qu'elle avait parcouru. La place centrale de Ruidéane était d'une splendeur à couper le souffle. À part au centre, très précisément, des dalles blanches couvraient entièrement le sol. Au centre, dans la terre, se dressait un arbre géant, ses branches écartées comme des bras qui auraient voulu étreindre le soleil. De ce végétal se dégageait une perfection que la jeune Aïel ne parvenait pas à expliquer. Sans doute à cause d'une impeccable symétrie, aucune branche manquante, pas de trou dans le feuillage. Une vision particulièrement impressionnante, car, lors de sa visite précédente, Avienda s'était trouvé devant un arbre racorni et noirci. Dans un monde où tous les autres végétaux crevaient sans raison, celui-là guérissait et prospérait à une vitesse impensable et en principe impossible. Ses feuilles bruissaient sous les caresses du vent, et ses racines apparentes faisaient penser aux doigts ridés et pliés d'un antique sage. Le végétal, sentit la jeune Aïel, voulait qu'elle s'asseye et savoure la paix et la plénitude de cet instant. On eût dit que cet arbre était le modèle de tous les autres. Un idéal fait réalité. Dans la légende, on l'appelait Avendessora, l'arbre de vie. Les colonnes de verre se dressaient sur un côté de l'arbre. Par dizaines, voire par centaines, elles formaient des cercles concentriques. Très fines, elles tutoyaient le ciel. Aussi purement naturelles qu'Avendessora, ces flèches de verre étaient également aussi peu naturelles que possible. Considérant leur diamètre et leur hauteur, le moindre souffle de vent aurait dû les renverser comme des quilles. Ça ne les rendait pas aberrantes, mais simplement artificielles. Quand Avienda s'était aventurée sur la place pour la première fois, des jours plus tôt, des geishas en tenue blanche ramassaient méticuleusement les feuilles mortes et les brindilles. L'apercevant, ils avaient détalé sans demander leurs restes. Depuis la métamorphose de Ruidéane, était-elle la première à traverser la forêt de colonnes? Sa tribu n'avait envoyé personne, et si une autre l'avait fait, elle en aurait entendu parler. Ça ne laissait que les Shaido. Mais il n'avait pas accepté les révélations de Randaltor au sujet du passé des Aiel. Si des Shaido étaient venus, soupçonnait Avienda, il n'aurait pas supporté ce qui était montré ici. Une fois engagé dans la forêt de colonnes, il n'en serait jamais ressorti. Avienda n'avait pas subi ce sort. Elle avait survécu, et rien de ce qu'elle avait vu ne s'était révélé surprenant. Presque une déception. Elle soupira, se remit debout et approcha son visage du tronc. Puis elle leva les yeux vers l'entrelac de branches. Jadis, cette place était semée de terrains gréales. Ici, Rand s'était procuré les clés d'accès qui, plus tard, lui avaient permis de purifier le Saïdin. Ce gisement de terrains gréales n'existait plus à présent. Moiraine en avait réquisitionné une grande partie pour la Tour Blanche, et les Aiel locaux avaient emporté les autres. Du coup, il restait les colonnes, l'arbre et les trois cercles que les femmes devaient traverser lors de leur première visite à Ruidéane, le voyage qui faisait d'elles des apprentis matriarches. Avienda se souvenait de certaines de ses errances à travers ces cercles. À cette occasion, elle avait vu sa vie et toutes les existences potentielles qui s'offraient à elle. Hélas, dans sa mémoire, il ne restait que des fragments épars. Par exemple, la prescience de son amour pour Rand et le fait qu'elle aurait des sœurs épouses. Elle avait aussi eu la certitude qu'elle reviendrait un jour à Ruidéane. Le simple fait de fouler de nouveau cette place ranimait en elle une partie de ses souvenirs. Elle s'assit en tailleur entre deux racines géantes de l'arbre. La brise agréable, l'air sec familier, l'odeur de poussière de la tierce terre. Tout ça réveilla dans son esprit des réminiscences de son enfance. Sa traversée des colonnes avait été une authentique immersion. Une expérience durant laquelle elle s'attendait à découvrir l'origine des Aiel. Peut-être en assistant au jour décisif où ils avaient, en tant que peuple, choisi de manier les lances et de se battre. Ce qu'elle espérait voir, c'était une noble décision. Un moment glorieux où l'honneur prenait le dessus sur les dogmes débilitants du paradigme de la feuille. Rien de tout ça n'était venu. Stupéfaite, elle avait vu à quel point les événements s'étaient déroulés sur un mode mineur, presque par hasard en réalité. En guise de grande décision, un homme avait refusé de voir sa famille massacrée sous ses yeux. Le désir de défendre les autres pouvait être honorable, mais dans sa démarche, cet homme n'avait investi aucun honneur. Avienda posa sa tête contre le tronc de l'arbre de vie. Les Aïels avaient bien mérité leur châtiment dans la tierce terre, et en tant que peuple, ils avaient toujours un taux envers les Aes Sedai. Avienda avait vu tout ce qu'elle s'attendait à voir. Mais bien des choses qu'elle espérait découvrir avaient brillé par leur absence. Des siècles durant, les Aïels viendraient ici, comme ils le faisaient depuis des lustres. Et chacun d'eux apprendrait quelque chose qui était désormais de notoriété publique. Un point qui troublait énormément Avienda. Elle regarda les branches osciller, des feuilles s'en détachant pour tomber vers elle. L'une frôla sa joue avant de se poser en douceur sur son châle. Traverser la forêt de colonnes n'était plus un défi. À l'origine, ce terrain gréal faisait passer une épreuve. Les chefs potentiels pourraient-ils regarder en face et accepter le sombre secret des Aïels? Quand elle était une promise, Avienda avait été mise à l'épreuve physiquement, dans sa puissance brute. Pour devenir une matriarche, on devait s'exposer mentalement et émotionnellement. Ruidehan était le bouquet final de ce long processus. L'ultime challenge de résistance mentale. Aujourd'hui, ce n'était plus le cas. De plus en plus, Avienda pensait que respecter les traditions simplement parce qu'elles étaient des traditions confinait à la stupidité. Les bonnes traditions, celles des Aïels, indestructibles, enseignaient la voie du Jietto. En d'autres termes, l'art de survivre. Avienda soupira et se releva. La forêt de colonnes, constata-t-elle, ressemblait aux étranges lances de glace qu'elle avait vues en hiver dans les terres mouillées. Des stalagmites, si on en croyait Elaine. Des flèches qui jaillissaient du sol comme si elles voulaient transpercer le ciel. Mais les colonnes, elles, étaient des artefacts d'une grande beauté et vibrants de pouvoir. Quelle tristesse de les voir sombrer dans l'insignifiance. Une idée traversa l'esprit d'Avienda. Avant qu'elle quitte Kemlin, Elaine et elle avaient fait une stupéfiante découverte. La jeune Aïel avait un don lié au pouvoir de l'unique, l'aptitude à identifier les terrains gréal. Pouvait-elle déterminer très exactement la nature des colonnes de verre? Après tout, elle n'avait pas pu être créée spécifiquement pour les Aïels, n'est-ce pas? En général, les artefacts si puissants dataient de temps très anciens. Très probablement créés pendant l'âge des légendes, ces colonnes avaient dû être ensuite modifiées pour montrer leur passé aux Aïels. Ils savaient si peu de choses au sujet des terrains gréal. Est-ce que les Aes Sedai de jadis les comprenaient à la façon dont Avienda comprenait un arc ou une lance, sachant exactement à quoi ils servaient et comment on devait les utiliser? Le pouvoir de l'unique était si merveilleux et énigmatique que le simple fait de réaliser des tissages d'entraînement donnait à Avienda l'impression d'être une enfant. Elle approcha d'une colonne en faisant attention à ne pas traverser le cercle. Si elle touchait un des artefacts, son don lui permettrait peut-être d'en apprendre plus. Avec des terrains gréal, l'expérience pouvait se révéler dangereuse, mais elle avait déjà relevé leur défi et en était sortie indemne. Non sans hésiter, elle posa les doigts sur la surface lisse. D'un pied de diamètre environ, la colonne s'élançait vers le ciel. Les yeux fermés, Avienda tenta de découvrir sa fonction première. Avant toute chose, elle capta l'aura de puissance de l'artefact. Pas de comparaison possible avec les terrains gréal que lui avait proposé Elaine, tous infiniment moins puissants. En fait, la colonne semblait, eh bien, vivante en un sens. En elle, on sentait une conscience, ou quelque chose de très proche. Avienda frissonna. Touchait-elle la colonne, ou était-elle touchée par elle? Elle tenta de l'explorer, comme elle avait fait à Kemlin, mais ce terrain gréal-là était bien plus complexe que ceux d'Elaine. À l'instar du pouvoir de l'unique, il se révélait incompréhensible. La jeune Aïel inspira à fond, désorientée par le poids de ce qu'elle éprouvait. Un instant, elle eut l'impression d'être tombée dans un puits obscur et très profond. Elle ouvrit les yeux et retira sa main, la paume frémissante. Ce mystère la dépassait, comme si elle était un insecte tentant d'appréhender la taille et la masse d'une montagne. Inspirant de nouveau pour se calmer, elle secoua la tête. Ici, il ne lui restait plus rien à faire. Se détournant des colonnes, elle s'en éloigna. Elle se nommait Malhydra. 18 ans, mais assez rachitique pour paraître beaucoup plus jeune. Sans un bruit, elle rampait dans le noir. Approcher autant des faiseurs de lumière était dangereux, mais la faim la forçait à courir tous les risques, comme d'habitude. La nuit était glaciale dans cet environnement dévasté. Malhydra avait entendu parler d'un endroit au-delà des montagnes où l'herbe était verte et la nourriture abondante. Mais elle ne croyait pas à ses mensonges. De si loin, les montagnes lui apparaissaient comme une barrière qui défiait le ciel. Qui aurait pu grimper jusqu'au sommet? Les faiseurs de lumière, peut-être. En général, ils venaient de cette direction. Leur camp était devant elle, illuminé au cœur de l'obscurité. Mais la lueur était trop stable pour que des flammes la génèrent. Donc, elle devait provenir des boules que les faiseurs avaient toujours avec eux. Malhydra avança, les mains et les pieds nus maculés de poussière. Avec elle, il y avait quelques hommes et quelques femmes du peuple. Des visages crasseux, des cheveux emmêlés. Chez les mâles, des barbes en broussailles. Des gueux en lambeaux. Des pantalons troués, des chemises qui ressemblaient à des chiffons. L'esthétique ne comptait pas. L'essentiel, c'était de se protéger du soleil, parce qu'il pouvait tuer. Et il ne s'en privait pas. Malhydra était la dernière de quatre sœurs. Deux mortes à cause du soleil et une après la morsure d'un serpent. Malhydra avait survécu et elle entendait bien continuer. Pour ça, le mieux était de suivre les faiseurs de lumière. C'était risqué, mais elle ne prêtait plus attention à des détails pareils. Logique, quand tout ce qu'on croisait pouvait vous être fatal. Sans quitter des yeux les sentinelles des faiseurs, Malhydra contourna un buisson. Deux hommes, armés de leurs étranges bâtons qui n'en étaient pas. Un jour, Malhydra en avait trouvé un près d'un cadavre, sans parvenir à l'utiliser. Les faiseurs de lumière détenaient des pouvoirs magiques, ceux qui leur permettaient de créer leur nourriture et leur éclairage, par exemple. Une magie qui les gardait au chaud durant la plus froide des nuits. Les deux hommes étaient bizarrement vêtus. Un pantalon très serré, plus une veste avec une multitude de poches, des objets brillants accrochés un peu partout. Tous les deux avaient un chapeau, mais le plus grand le portait sur la nuque, suspendu à son cou par une fine lanière de cuir. Les gardes bavardaient. Contrairement aux hommes du peuple, ils n'avaient pas de barbe et leurs cheveux étaient très sombres. Une de ses compagnes approchant trop d'elle, Malhydra feula pour la forcer à reculer. La femme la foudroya du regard, mais elle obéit. Malhydra resta à la lisière de la lumière. Les faiseurs ne la verraient pas, parce que leurs étranges boules lumineuses détérioraient leur vision nocturne. Malhydra contourna leur grand chariot. Pas de chevaux, seulement un véhicule assez grand pour abriter une dizaine de personnes. Le jour, il avançait par magie sur des roues presque aussi hautes que la jeune femme. Dans la langue silencieuse du peuple, faite de signes, elle avait appris que les faiseurs, à l'est d'ici, construisaient une énorme route, qui traverserait en droite ligne le désert. Pour ça, ils posaient sur le sol de curieuses barres de métal, trop grandes et trop lourdes pour qu'on les vole. Même si Djorchem avait un jour exhibé un étrange clou géant. Un trophée dont il se servait pour détacher la viande des os. Malhydra n'avait plus rien mangé de bon depuis un moment. 2 ans, exactement, quand ils avaient réussi à tuer un marchand dans son sommeil. Elle se souvenait encore du festin. Pillant les réserves du mort, elle s'était gavée à s'en faire exploser l'estomac. Un étrange sentiment de plénitude. Merveilleux, mais douloureux. La plupart des faiseurs de lumière étaient trop prudents pour qu'elle puisse les tuer pendant qu'ils dormaient. Et quand ils étaient éveillés, Malhydra n'osait pas les affronter. D'un regard, ils pouvaient désintégrer une miteuse comme elle. Suivie par 2 membres du peuple, Malhydra, très nerveuse, contourna le chariot pour en approcher par l'arrière. Avec un peu de chance, les faiseurs y auraient jeté les reliefs de leur dîner. Avançant, la jeune femme commença à fouiller dans les détritus. Elle trouva quelques restes de viande, enfin du gras surtout. Elle s'en empara très vite, histoire que les autres ne les voient pas, et les fourra dans sa bouche. Elle sentit de la terre craquer sous ses dents, mais du gras, eh bien, c'était de la nourriture. Sans perdre de temps, elle fouilla de nouveau dans les ordures. Une lumière très brillante s'abattit sur elle. Malhydra se pétrifia, la main à mi-chemin de sa bouche. Ses compagnons crièrent et détalèrent. Tentant de les imiter, elle trébucha. Une sorte de sifflement retentit, l'arme d'un des faiseurs, et quelque chose percuta le dos de Malhydra, l'équivalent d'une petite pierre. Elle s'écroula, la douleur soudaine et fulgurante. Alors que la lumière semblait faiblir, elle cligna des yeux, essayant de s'adapter, tandis que sa vie s'écoulait de son corps.
« Je te l'avais dit !»
fit une voix. 2 silhouettes se découpèrent dans la lumière. Malhydra comprit qu'elle devait courir, Elle essaya de se relever, mais parvint à peine à se soulever sur les mains.
« Par le sang et les braises, Flairn !»
dit une autre voix. Quelqu'un s'agenouilla près de Malhydra.
« Pauvre petite, c'est presque une gosse, elle ne faisait aucun mal. »« Aucun mal ?»
grogna Flairn.
« J'ai vu une de ces créatures trancher la gorge d'un homme endormi, pour lui voler ses ordures. Maudite engeance !»
L'autre homme se pencha un peu, et Malhydra découvrit son visage sinistre, où brillaient deux yeux plus lumineux que des étoiles.
« La prochaine fois, on enterrera les restes !»
dit-il en se relevant. Il s'éloigna, sortant du cercle de la lumière. Flairn resta près de Malhydra. Était-ce son sang qui coulait partout? Un liquide chaud comme de l'eau restait trop longtemps au soleil. Être en train de mourir ne donna pas à Malhydra. En un sens, elle s'y attendait depuis le jour de sa naissance. Et c'était sans doute le mieux qu'elle avait à faire en ce monde.
« Maudit Aiel !»
lâcha Flairn, alors que les yeux de sa victime se fermaient pour toujours. Avienda sentit sous ses pieds les dalles de la grande place de Ruidéan. Elle sursauta, très troublée. Dans le ciel, le soleil avait changé de position. Des heures s'étaient écoulées. Que s'était-il passé? La vision était si réelle, comme quand elle avait assisté au premier jour de son peuple. Mais comment l'interpréter? Avait-elle reculé encore plus dans le temps? Les étranges machines, les vêtements, les armes, tout ça faisait penser à l'âge des légendes. Mais le décor, c'était bien le désert. Avienda se souvenait très clairement d'avoir été Malhydra. Des années de famine, de pillage, de haine et de peur à cause des faiseurs de lumière. Elle se rappelait sa mort. Terrorisée, piégée, du sang chaud sur tout son corps. Bouleversée, la jeune Aiel porta une main à sa tête. Son problème, ce n'était pas la mort. Un jour, tout le monde se réveillait du rêve qu'était la vie. Et si elle n'était pas pressée d'y arriver, elle n'avait pas peur de ce moment-là. Non, l'horreur dans cette vision, c'était l'absence totale d'honneur. Tuer des dormeurs pour les détrousser? Voler des détritus à demi mâchés? Se vêtir de haillons? Malhydra était un animal plus qu'une personne. Dans ces conditions, mieux valait crever. Mais les Aiel ne pouvaient pas avoir des origines pareilles, si anciennes soient-elles. Durant l'âge des légendes, ils étaient des serviteurs pacifiques et respectés. Comment auraient-ils pu descendre d'une lignée de lâches et de pillards? C'était peut-être un petit groupe très particulier, où l'homme s'était trompé quand il avait maudit les Aiel. À partir d'une seule vision, ça se révélait difficile à dire. Mais pourquoi lui avait-on montré ça? Elle s'éloigna un peu plus des colonnes, mais rien ne se passa. Plus de vision. Lentement, elle traversa la place pour en sortir. Mais elle ralentit encore le pas. Non sans hésiter, elle se retourna. À la lueur du crépuscule, les colonnes se dressaient dans toute leur tranquille splendeur. On eût dit qu'elles vibraient d'énergie. Y avait-il davantage à voir? La dernière vision n'avait aucun lien avec les autres. Si elle s'enfonçait de nouveau dans la forêt de colonnes, reverrait-elle la même chose que la première fois? Ou avait-elle altéré quelque chose avec son don? Depuis la fondation de Ruidéan, des siècles plus tôt, les colonnes montraient aux Aiel ce qu'ils avaient besoin de savoir sur eux-mêmes. Les Aes Sedai s'étaient arrangés pour qu'il en soit ainsi, pas vrai? Ou avait-elle simplement mis en place les Terrans Gréal, les laissant faire ce qui leur chantait, tant que ça dispensait de la sagesse? Avienda écouta le bruissement des feuilles d'Avendessora. Ces colonnes étaient un défi, comme un guerrier ennemi brandissant sa lance. Si elle s'y engageait de nouveau, elle n'en sortirait peut-être plus jamais. Ce Terrans Gréal géant, nul n'était censé lui rendre visite deux fois. Un trajet à travers les cercles, un au milieu des colonnes. Mais Avienda était venue chercher des connaissances. Pas question de repartir les mains vides. Elle fit demi-tour, approcha des colonnes et s'engagea dans ce labyrinthe. Nommée Norlesh, elle serrait son plus jeune enfant contre son sein. Alors qu'un vent sec faisait volter son châle, Garlvan, son bébé, commença à pleurer. Mais elle le calma pour ne pas gêner son mari, qui parlait avec des étrangers. Pas très loin de là, sur les contreforts des montagnes, s'étendait un village d'étrangers. Des gens bizarres qui portaient un pantalon à la coupe serrée et des chemises à boutons. Non content de se distinguer ainsi, ils plongeaient les tissus dans de la teinture. Ils venaient pour le minerai. Comment pouvait-on aimer des cailloux au point de vivre de ce côté des montagnes, loin des terres de légende où l'eau coulait à flot et où la nourriture abondait? Au point même d'abandonner leurs bâtiments, où la lumière n'avait pas besoin de bougies pour apparaître, et leurs rues, où les chariots roulaient sans être tirés par des chevaux? Sentant que son châle glissait, Norlèche le remit en place. Il lui en fallait un œuf. Celui-là était déchiré, et elle n'avait plus de fil pour le repriser. Garlvan pleurait dans ses bras, et son seul autre enfant vivant, Maze, s'accrochait à ses jupes. La pauvre petite n'avait plus dit un mot depuis que son frère aîné était mort, à cause du soleil, comme tant d'autres.
« S'il vous plaît !»
dit Metallan aux étrangers. Son mari conversait avec deux hommes et une femme, tous les trois en pantalon. Des gens rudes, pas comme les autres étrangers avec leurs traits délicats et leurs ridicules soieries. Les éclairés, comme les appelaient parfois leurs compagnons. Ces trois-là étaient beaucoup plus ordinaires.
« S'il vous plaît !» répéta Metallan. « Ma famille !»
Un brave homme, enfin, avant, quand il était encore fort et en bonne santé. À présent, les joues creuses, on eût dit l'ombre de lui-même. La plupart du temps, ses yeux bleus, naguère si vifs, semblaient fixer le vide. Un homme hanté. Quoi de plus normal, après avoir vu trois de ses enfants mourir en 18 mois? Bien qu'il fût une tête plus grand que les étrangers, devant eux, Metallan paraissait tout petit. Le chef du trio, un type à la barbe en broussaille et aux grands yeux qui semblaient francs, secoua la tête. Puis il rendit à Metallan son sac plein de pierres.
« L'impératrice Corbeau, puisse-t-elle respirer éternellement, nous l'interdit. Pas de commerce avec les Aïels. En te parlant, nous risquons de perdre notre statut. »«
Nous n'avons rien à manger, » insista Metallan. « Mes enfants meurent de faim. Ces pierres sont gorgées de minerais. Celui que vous cherchez, je le sais. J'ai mis des semaines à les trouver. Donnez-nous de quoi survivre. Des miettes, je vous en prie. »«
Désolé, mon gars, » dit le barbu. Aucune envie d'avoir des ennuis avec les corbeaux. Partez d'ici, nous ne voulons pas de grabuge.
Des étrangers approchèrent dans le dos de Metallan. L'un portait une hache et deux autres des bâtons qui sifflent. Metallan se décomposa. Des jours de voyage, des semaines à chercher les pierres, tout ça pour rien. Il se tourna et regarda sa femme. Dans le lointain, le soleil se couchait. Dès que Metallan eut rejoint Norlèche, ils s'éloignèrent du camp des étrangers. Maze pleurnicha, mais aucun de ses parents n'avait la force ni l'envie de la porter. Après une heure de marche, Metallan repéra une grotte dans une muraille rocheuse. Ils s'y installèrent sans faire de feu, faute de combustible. Norlèche aurait voulu pleurer, mais éprouver des sentiments devenait si difficile.
« J'ai faim !»
gémit-elle.
« Demain matin, j'irai chasser, »
dit Metallan, les yeux rivés sur les étoiles.
« Nous n'avons rien pris depuis des jours. »
Metallan ne répondit pas.
« Qu'allons-nous faire? Depuis le temps de mon arrière-grand-mère, Tava, notre peuple n'a plus de foyer. Dès que nous tentons de nous rassembler, les étrangers nous attaquent. Si nous errons dans le désert, c'est pour finir par y crever. Ils refusent de commercer avec nous et nous interdisent de traverser les montagnes. Qu'allons-nous faire ? »
En guise de réponse, Metallan s'étendit et tourna le dos à sa femme. Alors, les larmes vinrent. Pas un torrent, plutôt un goutte à goutte qui coula le long des joues de Norlèche, pendant qu'elle ouvrait son chemisier pour donner le sein à Garlvan. Il tétrait à sec, mais si ça pouvait le rassurer. Le bébé ne bougea pas. Le soulevant, Norlèche s'aperçut qu'il ne respirait plus. Pendant la marche, il était mort sans qu'elle s'en rende compte. Et maintenant qu'elle le savait, son cœur restait sec, comme si elle était au-delà du chagrin. Avienda posa un pied sur les dalles de la place. Autour d'elle, la forêt de colonnes de verre brillait de mille feux aux multiples couleurs. On se serait cru au milieu d'une performance d'illuminateur. À présent, le soleil était haut dans le ciel et les nuages, ô miracle, avaient disparu. Avienda brûlait d'envie de quitter la place pour toujours. Découvrir que les Aïels suivaient jadis le paradigme de la feuille ne l'avait pas ébranlé, puisqu'elle le savait. Bientôt, son peuple s'acquitterait de ce taux. Mais ça, ce ramassis de rebuts d'humanité errant, des épaves incapables de se défendre, assez vile pour mendier et trop pleutre pour survivre avec ce que leur offrait le désert? Ses ancêtres, cette bande de miteux? Par bonheur, Rand Dalton n'avait pas révélé ce passé-là aux Aiel d'aujourd'hui. Devait-elle fuir? Laisser la place derrière elle et ne plus rien voir? Si de pires choses l'attendaient, la honte l'étoufferait. Hélas, maintenant qu'elle avait commencé, il n'y avait plus d'échappatoire. Les dents serrées, elle avança d'un pas. Nommée Tava, elle avait 14 ans et criait en courant dans la nuit pour fuir sa maison en feu. Toute la vallée, en réalité un étroit canyon, était la proie des flammes. Dans la forteresse, aucun bâtiment ne survivrait à ça. Dotées de longs coups sinueux et de grandes ailes, des créatures de cauchemar sillonnaient le ciel. Sur leur dos, des hommes tiraient à l'arc, projetaient des lances, ou utilisaient les étranges armes qui crachaient du feu en sifflant. Tava essaya de repérer sa famille, mais le chaos et la terreur régnaient dans la forteresse. Si quelques guerriers résistaient, ils ne tardaient pas à s'écrouler, foudroyés par une flèche ou par les projectiles invisibles des nouvelles armes. Un aïel tomba juste devant Tava, raide mort. Nommé Tadvishm, c'était un des chiens de pierre, un des derniers ordres de guerriers qui gardait un semblant de cohésion et d'identité. La plupart des guerriers n'appartenaient plus à un ordre. Au hasard des campements, ils fraternisaient avec les gens qu'ils rencontraient. Le plus souvent, ces camps disparaissaient au bout de quelques jours. Cette forteresse secrète, nichée au cœur du désert, aurait dû être différente. Comment les tueurs d'Aiel l'avaient-ils localisée? Un enfant de 2 ans pleurait non loin d'une demeure en feu. Tava courut, le prit dans ses bras et l'emporta loin des flammes. Pour construire tout ça, il avait fallu aller chercher du bois au cœur des montagnes, à l'ouest du désert. Pas une mince affaire. Et maintenant? L'enfant dans les bras, Tava courut jusqu'au bout du canyon. Où était donc son père? Soudain, un des monstres volants atterrit devant la jeune Aiel, le courant d'air faisant onduler sa jupe. Un casque en forme de tête d'insecte sur la tête, un guerrier impitoyable chevauchait la créature. Baissant son bâton tueur, il visa Tava. Terrifiée, elle cria et tenta de protéger l'enfant en l'enveloppant de ses bras. Le sifflement mortel ne retentit jamais. Entendant grogner puis crier le monstre, Tava ouvrit les yeux et vit qu'une silhouette se battait avec l'étranger. À la lueur des flammes, elle reconnut son père, rasé de près comme l'imposaient les anciennes traditions. La créature se cabra et expédia les 2 hommes à terre. Quelques secondes plus tard, le père de Tava se releva, avec au poing l'épée rouge de sang de l'envahisseur. Le tueur d'Aiel ne bougeait plus. Derrière lui, le monstre prit son envol et s'éloigna en rugissant. Tava vit qu'il suivait ses congénères. Les envahisseurs se retiraient, laissant derrière eux des cadavres et des ruines. Tava balaya le canyon du regard. L'horreur absolue. Sur le sol, des dizaines d'Aiel agonisaient ou étaient déjà morts. L'étranger tué par son père semblait être l'unique perte de l'ennemi.
« Du sable !»
cria Rowan, le père de Tava.
« Il faut étouffer les flammes !»
Grand, même pour un Aiel, les cheveux roux brillants, il portait la tenue ocre traditionnelle, les lacets de ses bottes souples montant jusqu'aux genoux. Même si beaucoup les avaient abandonnés, ses vêtements étaient le signe de reconnaissance des Aiel. Désormais, ça revenait à s'accrocher une cible dans le dos. Rowan avait hérité sa tenue de son grand-père, avec une mission.
« Sois fidèle aux antiques coutumes. N'oublie jamais le Jieto. Bats-toi pour sauvegarder ton honneur. »
Même si Rowan était arrivé quelques jours plus tôt à la forteresse, les autres lui obéirent et tentèrent d'étouffer les flammes. Après avoir rendu l'enfant à sa mère, qui lui manifesta sa reconnaissance, Tava alla aider à collecter du sable et de la terre. Quelques heures plus tard, les survivants maculés de sang et morts de fatigue se rassemblèrent au milieu du canyon. Désespérés, ils contemplèrent ce qui restait de mois et de mois d'efforts acharnés. En une nuit, tout avait disparu. Rowan portait toujours l'épée, et il s'en servait pour asseoir son autorité. Certains anciens prétendaient qu'une épée était un mauvais augure. Mais pourquoi racontait-il ça? C'était une arme, ni plus ni moins.
« Il faut reconstruire, » dit Rowan. « Reconstruire ?»
répéta un homme au visage crasseux de suie.
« Le grenier à grains a été le premier à brûler. Nous n'avons plus rien à manger. Nous survivrons. On peut aussi s'enfoncer plus profondément dans le désert.
Nous n'avons nulle part où aller,
dit un autre homme.
L'Empire Corbeau a envoyé des ordres à ses éclaireurs. Ils nous traquent depuis la frontière orientale. Où que nous allions, ils nous trouveront,
cria un autre Aiel.
C'est une punition, dit Rowan. Nous devons la supporter.
Les Aiel le regardèrent, puis, les uns après les autres, ils s'éloignèrent.
Attendez! Nous devons rester ensemble et continuer à nous battre. La tribu...
Nous ne sommes pas une tribu,
dit un homme au visage blême.
Je survivrai bien mieux tout seul. Assez de combats. Chaque fois, nous perdons.
Rowan baissa son arme, dont la pointe toucha le sol. Inquiète, Tava vint se camper à ses côtés, tandis que les autres s'enfonçaient dans la nuit, sans même prendre le temps d'enterrer leurs morts. Tête basse, Rowan lâcha son épée. Des larmes ruisselaient sur les joues d'Avienda. Pleurer à cause d'une telle tragédie n'avait rien de honteux. Elle avait eu peur de la vérité, mais il n'était plus question de la nier. Les tueurs étaient des maraudeurs séanchaniens montés sur des rakens. Les assassins de l'Empire Corbeau, les faiseurs de lumière dans sa première vision, étaient des séanchaniens. Or, ceux-ci n'existaient pas avant l'époque où les armées d'Arthur et de Faucon avaient traversé l'océan pour conquérir un continent. Avienda n'assistait pas au passé de son peuple, mais à son avenir. Lors de la première traversée des colonnes, chaque pas l'avait entraîné plus en arrière en direction de l'âge des légendes. Cette fois, les visions avaient commencé dans un lointain futur, chacune des suivantes se rapprochant des temps actuels en sautant une génération ou deux. En larmes, Avienda fit un pas de plus.